au sujet général de la, du séminaire. Si vous arrivez à m'entendre comme ça, je préfère. Et voilà, le thème général du séminaire que nous avons commencé donc jeudi dernier, ensuite il y a eu Shabbat, puis dimanche matin, c'est bien ça. Et c'est l'héritage des pères, c'est-à-dire au fond une introduction à l'étude des Pirkei Avot ou une découverte du sujet des Pirkei Avot par différentes approches. Et nous avions vu que, dans un point important de l'analyse de jeudi soir à la Sorbonne, nous avions vu que, inévitablement, étant donné qu'un certain projet de ceux qui ont commencé l'histoire d'Israël est confié à la descendance, apparaissait le problème donc de la conservation de l'héritage d'abord, et ensuite de la fidélité à ce projet. Et il y a un décalage inévitable à chaque temps entre l'état de l'acquis, l'état de la réalisation du projet, ça c'est l'héritage qui se transmet, disons, de génération en génération, mais plus exactement de cycle à cycle. Hier matin, lorsque nous avons commencé à explorer la première Mishnah des Pirkei Avot, nous avons vu qu'il y a des cycles de révélation, de transmission de la révélation, jusqu'à une époque très importante qui est celle de Anshei Knesset HaGedola, et où la prophétie cesse. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, il serait important de revenir sur ce point peut-être tout à l'heure. Enfin, l'expérience objective de la révélation en tant que prophétie cesse, c'est le temps de la fin du canon biblique et le commencement de l'histoire du judaïsme proprement dit, fondée par Anshei Knesset HaGedola, au temps de Ezra, Néhémie, Mardoché, Esther. Vous vous rappelez de ce moment historique. Et là, cet héritage, l'acquis de ce qui a commencé avec les commençants, avec les abotes, avec les premiers, tant les engendreurs que les premiers prophètes, est confié à la collectivité d'Israël en tant que société de rescapés, puisqu'entre-temps, l'ancien royaume d'Israël ayant disparu, la capacité prophétique d'Israël est diminuée de 10/12. Ça reviendra bientôt. Eh bien, malgré tout, il y a un moment assez périlleux, le fait de transmettre un contenu de sagesse qui ne s'entend que comme révélé et qui, dans les temps anciens, était expérimentable comme tel parce que le prophète était là, de transmettre cela à l'intelligence d'une société anonyme. J'emploie souvent ce terme. Vous remarquez, ce que vise la sagesse talmudique, c'est que, bien que devenue anonyme, cette sagesse de la Torah reste unanime. Ce n'est pas un jeu de mots. Il y a là deux catégories très importantes et dont le lien est très, très important. Il y a anonymat de la sagesse en Israël. Comme nous le verrons tout à l'heure, on ne nomme du nom du maître qui enseigne que le chidouche, c'est-à-dire le renouvellement de sens. Mais le contenu de ce qui se transmet, c'est Stam Torah. Stam Torah, ça veut dire la Torah, tout simplement. Enfin, tout simplement. Mais la Torah, elle est anonyme en tant qu'elle est la Torah d'Israël. Mais cette authenticité de la Torah, à partir du temps de Anshei Knesset HaGedola, dépend de l'unanimité de ceux qui transmettent et de ceux qui reçoivent. Or, cette unanimité n'existe pas. Voilà, si vous voulez, ce qui va faire essentiellement le sujet de ce soir. Nous allons étudier une Mishnah dans le chapitre 5 du Pirkei Avot qui parle de la Mahloket. La Mahloket, c'est la controverse, la rivalité des dépositaires de l'héritage. Et vous voyez donc comment la rivalité des dépositaires de l'héritage risque de porter atteinte à l'authenticité de la fidélité. Voilà comment ça se rattache, si vous voulez. C'est-à-dire, inévitablement, le chidouche porte avec lui la nécessité même du chidouche, porte avec elle le risque de la mahloket. Et nous savons, le Talmud est très clair à ce sujet, que c'est la plus grande plaie spécifique de la sagesse et de l'identité d'Israël, c'est la mahloket. Si le temple a été détruit, c'est à cause de la mahloket. Mahloket, ça veut dire rivalité. Et ça veut dire aussi controverse. Laissons, si vous voulez, pour le moment, de côté le terme de contestation, c'est un peu autre chose. Hein? Mais rivalité et controverse, si le temple a été détruit, c'est à cause de cela. Et il y a là l'expression très importante du point de vue du vocabulaire talmudique, et du point de vue du vocabulaire moral de la sagesse talmudique, sinat chinam, la haine pour rien, la haine gratuite, la haine tout simplement parce que l'autre c'est l'autre, parce que l'autre c'est vraiment un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'autre est vraiment aussi un des autres enfants. Hein? C'est la haine stam, sinat chinam. Et la reconstruction d'Israël qui est en cours, risque d'être handicapé si il n'y a pas Ahavat Hinam, c'est-à-dire le contrepoids. Vous connaissez certainement cet enseignement du Rav Kook, le père, rapporté par le fils, vous voyez qu'il y a quand même fidélité, et qui est un très grand chidouche. Rav Kook a enseigné ceci, qui pour le moment pour nous maintenant est devenu banal, enfin en son temps c'était vraiment un chidouche, ça reste un chidouche d'ailleurs. Et il dit, le temple a été détruit à cause de Sinatrinam, il ne pourra être reconstruit que par Ahavatrinam. Je traduis en français, Sinatrinam c'est donc la haine pour rien, et Ahavatrinam c'est l'amour pour rien. D'ailleurs en hébreu, en fin de compte, c'est presque pléonasme, hein? Parce que la véritable haine, c'est celle qui n'a pas de motif, parce que s'il y a un motif, c'est que c'est déjà autre chose. Et le véritable amour, c'est aussi un amour qui n'a pas de motif. D'ailleurs, c'est frappant de voir que dans la Mishnah, cet enseignement sur la qualité de l'amour authentique lorsqu'il n'y a pas de motif, Ahava She'enat Tluya Badavar, le véritable amour est un amour qui ne dépend de rien d'autre comme cause, comme raison, précède presque immédiatement la Mishnah que nous allons étudier et qui porte sur la Machloket. Il y a donc un décalage, je disais, entre l'héritage et le projet des pères, et le temps qu'il faut pour que ce projet réussisse mène inévitablement la nécessité du chidouche. Je veux dire, la solution heureuse du conflit héritage-fidélité, c'est le chidouche. C'est-à-dire le fait de renouveler l'héritage, mais dans le sens de la fidélité. C'est ça le chidouche. Alors en hébreu, chidouche signifie renouvellement de sens, mais un renouvellement qui n'est pas radicalement nouveau par rapport à l'ancien, si j'ose dire, c'est pas une rupture, c'est ce qui était ancien, Yashan, Noshan et Hadash, ce qui était ancien, réauthentifié pour le temps qui est nouveau. Vous savez qu'il y a actuellement, enfin depuis assez longtemps, dans le judaïsme occidental, et ça se récapitule actuellement en Israël, un conflit entre ce qu'on appelle l'orthodoxie et le libéralisme, et au fond, sans avoir identifié même le contenu de ce conflit, eh bien, on se rend compte que ce qui a manqué, c'était le chidouche. C'est-à-dire, ce qui apparaît comme aspect nouveau du judaïsme avec le libéralisme est inauthentique dans la mesure précise où il ne s'agit pas d'un chidouche de l'ancien. Et au fond, ce qui a manqué dans l'orthodoxie, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de chidouche. Mais la notion de chidouche en hébreu implique l'authenticité de ce qui est renouvelé. Je vous citerai un verset qui éclairera peut-être cette notion mieux. Titradesh kanesher neoraychi. Titradesh kanesher neoraychi, c'est un souhait que l'on donne à ceux qui sont malades et guéris, ceux qui guérissent d'une maladie, que ta jeunesse, neoraychi, se renouvelle comme, vous connaissez comme l'aigle. Vous connaissez le mythe de, comment ça s'appelle, du phénix, oui, qui renaît de ses cendres. Titradesh kanesher neoraychi. En réalité, dans le verset, il n'y a pas du tout le mythe du phénix, même pas de la nisette phénix, mais le sens est que, après la mue, j'allais dire le feuillage, le plumage, qui revient après la mue, c'est un chidouche. Mais c'est la même chose que l'ancien, mais plus jeune. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Et nous apercevons qu'en Israël, va apparaître un phénomène. Donc il y a son importance propre, sa gravité propre, c'est que cette nécessité du chidouche mène à la machloket, mène à la rivalité. D'abord, cela avait été pressenti par Anshei Knesset HaGadola eux-mêmes. Hier matin, nous avons commencé à lire cette Mishnah, nous avons vu que la transmission de l'héritage se fait jusqu'à eux, et en leur temps apparaît un moment important de notre histoire, il n'y a plus possibilité de vérification par la révélation directe. Et comme je vous disais, nous savons par les prophéties et par l'enseignement des maîtres contemporains que le retour en Israël est une des conditions qui permettront le renouvellement de la prophétie. Par conséquent, il est inévitable aussi que ce renouvellement de la prophétie soit annoncé par des forces, par des approximations d'intuitions prophétiques. Enfin, comme vous voyez, Israël s'est beaucoup assagi, a beaucoup appris de la leçon de sa propre histoire. C'est la chose absolument extraordinaire. C'est que depuis 20 ou 40 ans que notre histoire ressuscite en tant que sortie de la clandestinité, nous n'avons pas eu de faux prophètes, aucun chef de parti, aucun chef de tendance, aucun chef de communauté, si vous voulez, ne s'est présenté avec tout cet appareillage trouble, douteux, de ce que serait vous comprenez ce que je veux dire, de ce que serait un faux prophète. Ce que les gens ont à dire, ils le disent de façon concrète, directe, précise, incarnée dans la réalité politique. Mais il n'en reste pas moins, et cela, une grande partie de l'œuvre du Rav Kook l'annonce, il n'en reste pas moins que il faut s'attendre à ce que tous nos problèmes qui sont en impasse, sont des problèmes de marloquets sans solution, trouvent leur solution lorsque de nouveau la prophétie pourra se faire jour en Israël. Mais pour ça, comme vous le savez, il faut que la majorité du peuple juif retourne en Israël de telle sorte que ce pays soit peuplé de juifs. Sinon, la prophétie ne peut pas être juive, s'il n'y a pas le rov Yehudi. Et donc, ainsi que les sept agadola ont donné les trois consignes suivantes, « Hevu metunim badin, ve'aramidu talmidim harbe, va'asu siyag la Torah ». Ce sont les trois phrases que nous n'avons pas encore étudiées hier matin, je le rappelle très brièvement. C'est-à-dire, ils ont prévu les problèmes qui se poseront dans la suite des temps à Israël pour la transmission de la sagesse spécifique d'Israël, de la Torah. Donc, rappelez-vous que toujours dans la Torah, il y a deux parties, le récit historique qui raconte le projet des pères, et d'autre part, la loi qui nous permet de réaliser ce projet. Ce qu'ils ont prévu, c'est ce risque, ce péril qui s'attache au fait d'avoir confié à une sagesse révélée uniquement à l'intelligence des individus d'une société. Vous comprenez comment se pose le problème. Alors les trois consignes sont les suivantes. « Hevu metunim badin ». On traduit cela de la manière suivante. Lorsque vous rendez un jugement au nom de la Torah, lorsque vous donnez une décision au nom de la Torah, quel que soit le secteur dans lequel la décision est donnée, soit si c'est un problème d'ordre moral, un problème d'ordre liturgique, un problème d'ordre religieux, un problème d'ordre doctrinal, un problème d'ordre légal aussi, quel que soit le domaine, « Hevu metunim badin », ça veut dire « soyez très prudent lorsque vous donnez la conclusion d'un jugement ». Et très brièvement, le sens signifie que chaque fois qu'un cas est posé, et que l'on demande qu'est-ce que la Torah dit de cela, eh bien, ne croyez pas que vous connaissez déjà la réponse parce que vous l'avez apprise, parce qu'il y a déjà eu un cas de ce genre que vous avez étudié, parce que vous savez ce que la Torah dit pour des cas de ce genre, ne répondez pas automatiquement, c'est comme ça et pas autrement, il faut réétudier le cas posé comme s'il était radicalement nouveau et comme si la Torah n'en avait jamais parlé. Et vous, metunim badin, ça signifie, c'est bien clair ce principe, ça signifie, vous voyez déjà comment le chidouche apparaît dans la méthode, voilà. Ça signifie, tant que vous n'êtes pas sûr, ne donnez pas de décision, mais dès que vous êtes sûr, donnez une décision. Que le principe qui joue là, c'est le principe qui est le Hav, qui dispose du principe d'autorité, de telle sorte que parmi toutes les décisions possibles, ce soit celle-là qui soit habilitée. Et en tout cas, la notion qui apparaît ici, pour garantir la transmission, eh bien, il faut de prendre garde au principe d'authenticité. Et vous, metunim badin, ça signifie que votre décision soit authentique. Il n'y a pas à chercher des échafaudages pour consolider l'édifice. Il faut que l'édifice soit authentique pour qu'il puisse être consolidé. Il n'y a pas à chercher, si vous voulez, des procédés seconds pour faire passer la Torah. La Torah passe toute seule lorsque la Torah qui est transmise est authentique. Je veux dire que la plus grande efficacité vient de l'authenticité. Si on se pose la question comment transmettre à la génération suivante ce que, au bout d'expérience, la génération précédente, qui a été aussi jeune en son temps, la génération précédente a fini par découvrir comme étant la vérité, et quelle astuce pédagogique inventer pour essayer de faire passer aussi la Torah avec, eh bien, ceux qui ont prévu le problème, ils ont répondu clairement, il n'y a pas d'autre efficacité que l'authenticité elle-même. Si la Torah qui est présentée est authentique, alors elle passe. Sinon, elle ne passe pas. Et aucune astuce pédagogique ne la fera passer. Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est ça, et vous, Mezoudim Batou. Faites attention à ce que vous dites au nom de la Torah. Top. Deuxièmement, vers Amidou Talmidim Arbe, et c'est là que ce que sera rattaché surtout notre problème, et ayez, littéralement, ayez de nombreux élèves. Vers Amidou Talmidim Arbe. D'ailleurs, ça va ensemble. Ça va un peu plus loin quand même. Je ne vais pas faire l'exégèse de détails, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais Vahamidu Talmidim Arbe, cela signifie transformer le plus grand nombre d'élèves possible en maîtres. Ben, littéralement, ça veut dire les Haramid, faire tenir debout. Hein? Talmidim, des élèves, Arbe, beaucoup, abondamment. Et le problème, ce n'est pas, comme je le disais hier matin, le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'élèves, mais c'est de faire que beaucoup d'élèves deviennent des maîtres. Sinon, la transmission ne se fait pas. Parce que la transmission ne se fait pas par celui qui reçoit, elle se fait par celui qui transmet. Donc il faut faire qu'il y ait le plus grand nombre de disciples qui deviennent des transmetteurs. C'est ça, Ramidou, Talmidim, Marbe. C'est bien clair. Et c'est là que notre problème va s'accrocher. À partir du moment où il y a multiplication des véhicules de la transmission, il y a rivalité entre eux. Et dans Harbé, en hébreu, c'est le terme qui signifie multiplicité, beaucoup, rov, beaucoup, et vous avez un terme très voisin, rive, la querelle. Lorsqu'il y a beaucoup, la querelle, lorsqu'il y a plusieurs, la querelle apparaît. Ribouille, ribouille, c'est le nombre, vous voyez, c'est ribouille. Et ensuite, comment oui. C'est là que va s'accrocher notre problème de la marloque. C'est parce que à Midout Talmidi Marvé, cette nécessité du chidouche mène la rivalité. Vous vous rappelez du midrash que j'avais cité, ça commence déjà avec les enfants de Jacob, chacune des tribus réclamant la prérogative d'être celle par qui passe la suite, alors que toutes sont authentiques, alors que toutes sont les enfants de Jacob, Yaakov Mitato Shlema. Et c'est la raison pour laquelle commence la marloquette, la grande marloquette dont nous avons parlé les années précédentes, peut-être une de ces années suivantes, on reprendra ces thèmes, entre Joseph et Judas et tous les problèmes qui se greffent à ce sujet. Et troisième consigne, va'asus yab la Torah. Et faites, littéralement, faites une barrière à la Torah. L'idée, c'est faites une protection à la Torah. C'est-à-dire, ce contenu de sagesse au nom duquel les décisions du din sont données à chaque temps pour la vie de ce monde-ci, et ce contenu de sagesse doit être protégé. C'est-à-dire, dans quel sens il doit être protégé? Dans le sens qu'il apparaisse toujours bechavod, il apparaisse toujours comme honorable. Et pour que un contenu de sagesse apparaisse comme honorable, au niveau théorique des divrei Torah, associés à la Torah, il ne faut pas qu'il y ait de concession. Sinon, alors ça se dévalorise. Le din, c'est pour incarner les paroles de la Torah dans la vie de tous les jours. Et ce sont les hachamim, les dayanim, les juges, qui ont cette charge d'avoir à formuler, à partir du contenu de sagesse qui a été transmis jusqu'à eux, les décisions à prendre. Mais la Torah elle-même, ce contenu de sagesse lui-même, il ne peut y avoir aucune compromission, de quelque sorte que ce soit, il faut qu'il soit protégé. Ce siyag qui fait, si j'osais cet affreux jeu de mots, que Israël reste dans le sillage de la Torah, eh bien, ce siyag, c'est la protection d'honorabilité de la Torah, que les divrei Torah soient honorables. Et là, non plus, il n'y a pas de recette. Et là aussi, il n'y a pas de recette pédagogique. Là aussi, ça ne peut être que l'authenticité, ou la sincérité, si vous voulez, mais enfin, ça revient au même. Et c'est ce que dit une des phrases du Talmud, c'est un Mishnah de Birka Avot, je ne me souviens plus de la forme en hébreu, mais vous allez me le rappeler, celui qui a Irat Shamaim, Devarav Nishmaim. Eh bien, Kolmi Sheyeshbo Irat Shamaim, Devarav Nishmaim. Pardon? Oui, enfin. Hein? Nishmaim. Ça c'est Chokmatum et Kayemet. C'est une autre Mishnah. Celui qui a plus d'Irat Shamaim que de Chokmah, Chokmatum et Kayemet. C'est une autre Mishnah. Enfin, c'est cette idée-là. Celui qui a Irat Shamaim, c'est-à-dire qui a le respect de ce dont il parle, de Barab Nishmaim, on écoute ses paroles. Donc, ça peut se transmettre. Celui qui n'a pas le respect de ce dont il parle, bien entendu, on ne l'écoute pas. C'est ça, Asusiyag la Torah. C'est une mimra, c'est une consigne qui s'adresse aux Chachamim eux-mêmes. Tout se passe comme s'il faudrait lire « Soyez vous-même la protection de la Torah. Faites-vous le siyag, la protection de la Torah. » En tout cas, nous avons rattaché immédiatement notre problème, celui de la marloquette, à « Va'amidut al-midi marvé ». Quel est le problème de la marloquette? C'est que à partir de mêmes données, il peut y avoir des conclusions différentes à tirer, et donc opposition, rivalité, compétition de plusieurs points de vue possibles à partir des mêmes données de la Torah. Et là, on va opposer dans notre Mishnah deux sortes de marloquet. La marloquet qui est appelée l'Eshem Shamaim, avant d'arriver à la lecture littérale que le Maharal va nous proposer, la marloquette qui est l'Eshem Shamaim, c'est-à-dire désintéressé, qui a vraiment pour objet, la controverse porte sur la question suivante, que dit vraiment la Torah? Ce n'est pas la deuxième sorte de marloquette qui est appelée Sheena, les Shemshamaim, qui n'est pas les Shemshamaim, qui n'est pas désintéressé, c'est la marloquette des choses qui ont été dites entre elles. La marloquette des tenants de telle ou telle doctrine, des tenants de telle ou telle position. La première marloquette, c'est une rivalité, c'est une compétition, c'est une contestation, si vous voulez, mais tous ces termes sont approximatifs, sur le fait de savoir que dit vraiment la Torah. On veut savoir quelle est la halakha. On veut savoir quel est le din, on veut savoir ce que signifie tel enseignement. Et il y a une, peut-être que vous trouverez avec moi un mot plus précis, il y a une controverse, oui, au fond c'est le mot le plus précis, controverse sur ce que, mais c'est la controverse des Chachamim entre eux, qui n'ont absolument pas d'autre motif de controverse que le fait de savoir ce que la Torah dit de façon authentique. Ça s'appelle Mahloket Leshem Shamayim. Au nom de Dieu qui a donné la Torah, on est en rivalité. La guerre des justes. La rivalité des justes entre eux. Et puis d'autre part, une toute autre marloquette. Étant donné qu'il est possible de faire apparaître différentes conclusions, toutes rigoureusement, authentiquement déduites des mêmes prémices, on profite de cela pour liquider des querelles autres. Ça, c'est la marloquette selon les Shem Shemel. Et la Mishnah va nous donner deux exemples. Un, pour illustrer ce qu'est vraiment la marloquette des Shem Shemaim, c'est la controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire la maison de l'école de Hillel et l'école de Shammai. Et l'autre exemple, qui est précisément celui qui est raconté dans la Sidra de cette semaine, lorsqu'on a bâti le programme, on a essayé un peu de faire coïncider les choses, c'est la marloquette de Korach contre Moïse. Voilà donc quel va être le sujet de notre Mishnah. Je vais immédiatement lire cette Mishnah, ensuite je lirai deux Mishnayot précédentes qui introduisent le problème, et puis j'essaierai de vous présenter, enfin une explication d'après le Maharal, de ce que signifie cette différence entre les deux marloquettes. Il y a une marloquette qui est admise, la marloquette Leshem Shamayim, celle qui est, disons, désintéressée. Ce mot est impropre, parce que toute marloquette est intéressée. Entre Hillel et Shammai, il y avait un intérêt très puissant de savoir ce que vraiment avait dit la Torah. Et puis la marloquette intéressée, celle par laquelle on utilise éventualité, plus qu'éventualité, c'est le caractère inévitable de la controverse au nom de la Torah pour vider des querelles d'un autre ordre. Et dans notre sujet général, là où c'est le plus grave, c'est quand la querelle reprend cette controverse métaphysique, si je veux dire, enfin anthropologique de base, qui est celle des pères et des fils dont nous parlons dans l'ensemble de ce texte. Lorsque on utilise la marloquette de la Torah pour, en réalité, poser le problème de la guerre des générations. C'est là la marloquette la plus l'Olesem Shamay, comme nous le verrons tout à l'heure. Vous vous rappelez de ce que je vous avais cité jeudi soir à la fin de l'exposé, de l'analyse, où Bnei Korach l'Ometu, les enfants de Korach ne sont pas morts parce que ils ont gardé malgré tout, ils n'étaient pas de la vie de leur père, mais ils ont gardé malgré tout l'identité de filiation, ils ont continué à être Banim le Korach. En tant que Banim, c'est cela qui les a sauvés de ne pas mourir. Et je n'arrive plus à dire ça en français clair, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous allons d'ailleurs retrouver le thème général tout à l'heure. Bien. Est-ce que, avant d'aborder l'étude directe des textes, vous auriez une question? Non.
Ce que vous dites maintenant au sujet de Bnei Korach, est-ce qu'on peut interpréter ça que si on reste fidèle à une idée, même si elle est fausse, on fait parfaitement un fait.
Voilà, je disais, au fond, quelque chose de bien précis. Korach, comme nous allons le voir, s'opposait à Moïse. Et il a fomenté, comme on dit, toute une révolte contre Moïse. Et comme nous allons le voir, avec une dialectique démagogique. Le fait de la démagogie vis-à-vis de Moïse. C'était un rival possible, parce que dans la famille de Lévi, il y avait plusieurs lignées, et par conséquent plusieurs chefs possibles pour le peuple d'Israël, à partir de la même identité de la famille de Lévi. Et on voit que, si vous voulez, là où il y a Maldon dans ce problème, c'est que ce n'est pas n'importe quel Chacham d'Israël qui était rentré en compétition avec Moïse, c'était Dafka, celui qui aurait été le chef d'Israël si Moïse n'avait pas existé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était le candidat ou c'était le candidat le moins candide, parce que il y avait, c'était le Lishma, hein, puisque effectivement, si c'était pas Moïse, ça aurait été Korach. Alors le fait que Korach entre en compétition avec Moïse, cela seul dévoile qu'il n'était pas en ordre. Vous comprenez? Mais Korach a eu des enfants, et ses enfants n'ont pas partagé la controverse de Korach contre Moïse. Mais le chidouche que je vous ai cité est le suivant: bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur père, ils avaient le respect de leur père qu'un fils doit à son père. C'est ça qui les a sauvés. Pourquoi je vous disais, pour pouvoir être l'homme de la fidélité à l'identité collective, il faut d'abord avoir résolu le problème de sa fidélité personnelle à son propre patrimoine personnel. Tant que le problème parental, familial de chacun n'est pas résolu, le problème de l'unanimité d'Israël ne peut pas l'être non plus. C'est ça ce que je voulais essayer d'indiquer, d'ailleurs on reprendra ça par la suite. Alors ça c'est très joli, Ubnei Korach lo metu. Je vous rappelle d'ailleurs que la manière dont on utilise classiquement cette expression, c'est de dire tout à fait autre chose. De dire Korach est mort, mais il y a encore des petits Korach dans le monde, c'est-à-dire les tenants de la Machloket. Ubnei Korach lo metu. Bien que Korach ait disparu, il y a encore des gens qui jouent à ça. Ça c'est le pshat habituel. D'ailleurs c'est même pas le pshat. Mais... alors revenons donc déjà à la lecture de la Mishnah. La Mishnah nous dit Kol machloket shehi leshem shamayim, toute controverse qui est donc leshem shamayim, disons désintéressée, sofa leitkayem, est destinée, sofa littéralement sa fin, est destinée à se maintenir. Ou leitkayem, à se réaliser, à se réaliser. Voilà ce qu'il faut entendre par cet enseignement. Je vous donne ici la lecture du Maharal lui-même directement. C'est lorsque une machloket, c'est-à-dire deux positions qui s'opposent, et l'Eshem Shamaïm, si le fait même de l'opposition de deux opinions est désintéressé, alors cette machloket, ça veut dire la controverse elle-même, est destinée à se perpétuer. Ce n'est pas que une machloket qui est désintéressée, finalement un des deux arrivera à avoir raison, enfin plus que cela, un des deux arrivera à triompher, c'est que la machloket elle-même se perpétuera. Ça veut dire, lorsqu'une controverse est pure, lorsqu'une controverse est cachère, si vous voulez, la controverse se perpétue. Entre-temps, on aura décidé de faire comme l'un plutôt que comme l'autre, mais la problématique de la controverse se perpétuera. Si vous voulez, en quelque sorte. Bien, pardon.
Elle n'est pas fin de résolue, c'est ça?
Non, elle est résolue, elle est marassée. C'est-à-dire, en fait, il faut trancher. Alors on tranche ou comme cela ou comme cela. Mais on tranche en transmettant les deux opinions et en enseignant que les deux opinions sont vraies. Ça, c'est la machloket kasher. Sofa leitkayem betor machloket. Elle est destinée à se maintenir en tant que machloket. Vous avez compris? C'est-à-dire, il ne faut pas faire l'erreur de croire que ça signifie que lorsque quelqu'un est sincère dans une machloket, c'est lui qui triomphera et l'autre aura tort. On ne parle pas de cela. On parle d'une machloket où les deux ont raison. Alors, puisque les deux ont raison, la machloket est destinée à se transmettre. La machloket elle-même. Et nous verrons, d'ailleurs, l'exemple qui va nous être donné, c'est Hillel et Shammai. Et depuis le temps de Hillel et Shammai, on pratique comme Hillel, mais on enseigne comme Hillel et comme Shammai. Tout en sachant que c'est comme Hillel qu'il faut faire. Et toute la chokhmah du Talmud, comme nous le verrons tout à l'heure, c'est l'étude de l'opinion de Hillel et de l'opinion de Shammai. Bon, dans certains cas, on fait comme Shammai, dans certains cas, on ne fait pas comme Hillel, mais dans la grande majorité des cas, c'est comme Hillel que l'on fait. Nous verrons d'ailleurs aussi pourquoi. Mais, ça veut dire, Elou ve'elou dibre Elohim chayim. L'un et l'autre enseignement est absolument authentique et vrai et cachère. Seulement, on ne peut pas faire les deux à la fois, ils sont contradictoires. Quand l'un dit interdit, l'autre dit permis, etc. Mais, donc on tranche au point de vue halakha le maase, mais tout en sachant que celui comme qui on n'a pas fait n'avait pas tort. Seulement, on n'est pas dans le cas où il faut faire comme lui. Vous comprenez? Ça, c'est la machloket leshem shamayim. Et vous voyez à quel point il y a là, enfin, une expérience de sagesse qui est très différente des problèmes de controverse ou de contestation dans la civilisation gréco-romaine.
je veux dire de type intellectualiste, c'est-à-dire lorsqu'il y a un dialogue entre quelqu'un de Hillel et quelqu'un de Shammai, on pense des choses absolument opposées, hein? Mais on sait très bien que les deux ont raison. Ça peut vous paraître mystérieux au point de vue de la rationalité habituelle, mais c'est cela, le point de vue du Chidouche. Shabbat prochain, nous aurons à étudier les méthodes de la contestation dans l'enseignement talmudique. Mais je pourrais déjà vous citer ici pour éclairer ce point, le fait que, et c'est ça la grande gloire, de la pureté même de la sagesse talmudique, le fait que on ne clôt une controverse de ce genre que lorsque quelqu'un est arrivé à défendre la thèse de l'adversaire. C'est quand Shammai dit en quoi il a la raison. Il ne pense pas comme lui, il enseigne autre chose. Mais il faut d'abord que ce soit Shammai qui plaide la thèse de Hillel, et que Hillel plaide la thèse de Shammai. Alors là, on s'aperçoit qu'ils sont sincères. Est-ce que c'est bien? On appelle ça, je crois, dans les méthodes de la psychopédagogie moderne, l'empathie. Pas empathique. L'empathie, c'est-à-dire être capable de plaider le dossier de l'adversaire. Alors à ce moment-là, on a raison de ne pas être d'accord avec lui. Mais tant qu'on n'est pas capable de plaider son dossier, on ne connaît pas sa propre opinion soi-même. Est-ce que c'est bien clair, hein? Alors oui, donc, machloké, chez les Shem Shamaïm, c'est-à-dire c'est une machloké où on ne s'oppose pas à l'autre. On cherche ce que doit être la vérité. Et voilà que l'autre a trouvé une autre décision. Donc, il y a opposition. Mais l'opposition n'est pas entre les opinions. Elles sont toutes de vraies. L'opposition est entre les raisons pour lesquelles il faut choisir ou comme cela ou autrement. L'opposition est dans le ta'am, elle n'est pas dans le contenu de sagesse. Et alors, ce qu'enseigne le Maharal à ce sujet, c'est qu'une marloquée de ce genre est destinée à se perpétuer. C'est-à-dire on continuera à l'enseigner, on continuera à la vivre, on continuera à la trouver à chaque époque de transmission. Et effectivement, jusqu'à notre temps, nous étudions la controverse entre les Shammai. Tout en sachant que halakha le maaseh, c'est-à-dire du point de vue de la réalisation concrète, c'est comme Hillel qu'il faut faire. Vous voyez, il y a donc là une atmosphère du problème qui est spécifiquement traditionnelle, et donc dans notre cas juif, et qui est très importante à récupérer pour que la vie de la société soit vivable. Parce que, inévitablement, encore une fois, le chidouche, l'enrichissement, la richesse de la vie d'une tradition mène au chidouche, donc la rivalité du chidouche.
Les Sheena, les Shem Shamaïm, en sofari kayem. Et une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm ne se perpétuera pas comme marloquette, c'est-à-dire un des deux triomphera. Et vous voyez comment c'est l'inverse de ce qu'on croit d'habitude. C'est quand la marloquette n'est pas les Shem Shamaïm qu'alors, sauf, finalement, un arrivera à triompher de l'autre. Le Maharal dit en passant, il y a des marloquettes qui ne sont pas les Shem Shamaïm qui durent depuis longtemps, et qui durent encore. Mais on est assuré que finalement un des deux triomphera de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je peux faire allusion. Enfin, chaque fois qu'il y a une contestation contre Israël, en général, c'est vraiment une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm. Quand d'autres qu'Israël se prétendent Israël, c'est pas les Shem Shamaïm, c'est évidemment pas, il y a quelque chose derrière. Et pourtant ça dure. Mais on est assuré que en sofa leik. Et immédiatement on nous donne les exemples. Quel est l'exemple de la marloquette pure, pure dans le sens de pureté morale? C'est la marloquette de Hillel et Shammai. Et tout de suite j'éclaire le pshat. Vous voyez, c'est Hillel qui était en marloquette avec Shammai. C'est Hillel qui apporte le chidouche. Hillel vient après Shammai. Jusqu'à Shammai, c'est comme à dix Shammai que l'on enseignait et que l'on faisait. Le temps a changé, les problèmes ont changé, enfin je veux dire la problématique a changé. Alors Hillel a instauré un chidouche de l'enseignement de Shammai. Donc la marloquette, c'est Hillel contre Shammai. C'est bien clair. C'est quoi toujours dans la Gemara, on vous citera d'abord l'enseignement de Shammai, et ensuite on dira ce qu'Hillel a dit. Un deuxième chidouche, je ne me souviens plus où je l'ai appris, peut-être dans le Maharal, mais ailleurs, en tout cas pas dans le Pérec, ou peut-être ici dans le Pérec, je ne me souviens pas, je n'ai pas revu cette année. Le texte ne dit pas la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. La marloquette entre Hillel et Shammai. Par la suite, chez les disciples, il y a pu y avoir marloquette chez l'Ol et Shem Shammai. Mais entre Hillel et Shammai, eux, c'était les Shem Shammai. C'est ce qu'on veut nous indiquer. Est-ce que c'est bien clair? Entre Hillel et Shammai, il n'y avait d'ailleurs jamais que des nuances. Et puis finalement, ça s'est approfondi. Et lorsqu'on est le tenant, on peut être le serviteur du Mahloket Leshem Shamayim pour des raisons impures.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Non. On cite par exemple dans la Gemara, un jour, quelqu'un a vu, quelqu'un de Beit Hillel a vu quelqu'un de Beit Shammai faire la mitzvah, une mitzvah à la manière de Beit Shammai. Il s'est moqué de lui, en lui disant, est-ce que tu ne sais pas que c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein? Et l'autre lui a répondu, enfin l'autre lui a enseigné exactement comment il fallait faire vraiment. Je m'explique autrement. Mais le disciple de Beit Shammai faisait la mitzvah à la manière de Beit Shammai, donc de manière très différente que celle de Beit Hillel. Et un élève de Beit Hillel s'est moqué de lui en lui reprochant, est-ce que tu ne connais pas la halakha? Alors l'autre a dit premièrement, comment est la halakha? L'élève de Beit Hillel a expliqué pas très bien. Alors celui de Beit Shammai lui a expliqué la halakha de Beit Hillel de façon beaucoup plus convaincante. Après il lui a dit, ça c'est la halakha de Beit Hillel, mais moi je suis de Beit Shammai. Mais à peu près c'est... Donc, Mahloket Hillel Beit Shammai. C'est assez important de désigner. Parce que dans l'actualité, si vous voulez, dans l'actualité de chaque siècle, on s'aperçoit qu'il arrive que des Mahloket deviennent très violentes entre différentes écoles. Mais au sommet, entre les chefs de file, entre les maîtres entre eux, c'était comme Hillel Beit Shammai. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment cette haine, cette opposition, cette rivalité au niveau de la détérioration psychologique. Hein? Il y avait chidouche, un par rapport à l'autre. Et puis c'est lorsque cela s'approfondit au niveau les plus bas, au niveau du huitième de patrouille, si vous voulez, que ça devient la haine. Veshena Leshem Shamayim, zo machloket Korach vechol halato. Et la machloket qui n'est pas Leshem Shamayim, exemple, c'est celle de Korach et de toute sa bande, enfin de toute son assemblée. Et nous verrons tout à l'heure qu'on veut dire ici la machloket entre Korach et son assemblée contre Moïse. Mais qu'en fin de compte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la machloket qu'il y avait entre Korach et les siens. Entre Korach et les siens. Korach ve'adato. Comme Hillel Beit Shammai. Nous verrons effectivement que la punition du schisme, c'est le schisme à perpétuité. Lorsqu'il y a une machloket qui n'est pas Leshem Shamayim, elle est donc un schisme par rapport à ce à quoi elle s'oppose. Et finalement, les tenants de ce schisme sont toujours destinés à se diviser à l'infini les uns contre les autres. C'est arrivé à la chrétienté d'ailleurs. Puisque la chrétienté est issue d'un schisme par rapport au judaïsme, et elle va de schisme en schisme, à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas de plus grande diaspora intérieure que celle des églises chrétiennes entre elles, comme vous le savez. Et c'est d'ailleurs chez les protestants que la maladie est la plus grave, puisqu'ils sont eux-mêmes le schisme du schisme, c'est chez eux que le schisme se schisme. Et si j'ose dire, c'est un schisme attique. Et on retrouve d'ailleurs cela aussi, dans la gauche, enfin dans le monde socialiste. Hein? Le monde socialiste qui est déjà depuis assez longtemps dans la même pente de schisme à répétition. D'ailleurs, le socialisme apparaît lui-même comme schismatique par rapport à la morale chrétienne, et de cette même manière, on retrouve le même processus. Bien. Alors, premier enseignement, nous allons nous référer aux Mishnayot précédentes, que je vais vous lire très rapidement, pour qu'on comprenne pourquoi, dans ce chapitre, à ce moment précis, on veut nous enseigner au sujet de la Mahloket. Dans les Mishnayot précédents, il y a une définition des différentes sortes de disciples. Je vous donne d'abord la référence à la Mishnah 12 du chapitre 5, Arba'a Midot Betalmidim. Il y a quatre manières d'être chez les disciples, Mahir Ishmoar ou Mahir Le'abed. Celui qui est prompt à entendre et prompt à perdre, littéralement à oublier. C'est-à-dire celui qui a une disposition du point de vue de l'étude qui fait qu'il est vif pour recevoir, mais corollairement, il oublie vite. C'est très répandu. Alors on dit « Yassas Haro Befsedo ». Ça veut dire tout l'acquis qu'il peut avoir, il le perd par le défaut qu'il possède. Bon, c'est clair. « Kaché l'Ishmoar ve kaché l'Aved ». Il y en a une deuxième sorte pour qui c'est dur de comprendre, mais c'est dur aussi d'oublier. Une fois qu'on a compris, on a compris. Troisième sorte, Mahir Lishmoar Vekashel Abed, très prompt à écouter et dur à oublier, Zoch Elektob, ça c'est la meilleure part. Kashel Lishmoar ou Mahir Abed, Zoch Elektob. Et celui qui c'est dur pour comprendre, mais rapide pour oublier, ça c'est... Voilà, d'accord. Ça c'est la première Mishnah, et ensuite une Mishnah beaucoup plus proche de la nôtre. Ça, c'est si vous voulez les différentes qualités des disciples pour eux-mêmes, en tant que tels. Et ensuite, Arba Midot Biyoshvim Lifnei Chachamim. Il y a quatre manières d'être chez ceux qui sont littéralement assis devant les sages. C'est-à-dire lorsqu'ils sont déjà au degré où ils sont invités à écouter l'étude des sages entre eux. Est-ce que c'est bien clair? C'est une autre modalité. Et alors on donne quatre définitions. Une éponge, il y a quatre manières d'être. Comme l'éponge, comme l'entonnoir, comme le filtre et comme le tamis. Alors qu'est-ce que c'est que l'éponge? C'est fog, chez vous, sofeg et akol. C'est-à-dire, c'est fog, l'éponge, c'est ce qui retient tout. Bon, l'éponge. Ensuite, l'entonnoir, c'est celui qui perd tout. Voilà, l'éponge, ça veut dire tout ce qu'il entend et il est collé, il retient. L'entonnoir, c'est tout ce qu'il entend, ça se déverse, et puis ça part ailleurs. Ensuite, le filtre, ça veut dire qu'il laisse passer le vin et il garde la ligne. Et le tamis, le son s'en va et la farine seule passe. Donc, effectivement, c'est le tamis qui est la meilleure départ. La pire, c'est l'entonnoir. Le filtre, il garde au moins quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et puis l'éponge. Alors l'éponge, voilà, c'est celui qui est capable de retenir et d'intégrer ce qu'il a entendu de tous. Par conséquent, c'est celui en qui, chez qui, la machloket peut être intégrée. Vous comprenez? Et il s'agit des Yoshvim Lifnei Chachamim. Alors, c'est celui qui entend deux enseignements contraires dans la controverse des sages entre eux, et qui cependant est capable de les garder les deux. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez comment se fait la transition? Quelque chose n'est pas clair là? Bon, c'est par rapport à une certaine mida des Talmidim, et c'est là, si vous voulez, pratiquement ou concrètement, que apparaît ce principe qu'effectivement, la Mahloket Eshem Shamaim renvoie au principe de Elou Velou d'Ivre Elokim Chaim. Il y a des sages qui sont capables effectivement d'intégrer les deux données contradictoires, pas en faisant la synthèse de façon artificielle, mais effectivement en les intégrant dans l'unité d'une même sagesse. Alors, je vais aborder très rapidement la définition de la Mahloket Eshem Shamaim telle que l'interprète le Maharal. Et là, nous arrivons d'ailleurs à la lecture plus littérale de cette expression, l'Eshem Shamaim. Alors prenons d'abord les termes. Pourquoi emploie-t-on cette expression, l'Eshem Shamaim, pour dire désintéressé? Et en relation effectivement avec ce problème de la marche. Bien, Shamaim en hébreu signifie le ciel. C'est un mot qui est au duel. La forme du duel est très souvent employée en hébreu pour dire des réalités qui apparaissent sous deux faces. Par exemple, la majeure partie des organes du corps sont toujours au duel. Ozen, Oznaïm, El, Aïn, Aïnaïm, etc. Et voilà donc que Shamaïm est dit au duel. Ce n'est pas un pluriel, c'est bien un duel. Et le singulier de ce duel n'est pas usité en hébreu. Mais en arabe, il existe. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'arabe, le ciel se dit Sama. Je ne sais plus comment on prononce. Oui, enfin là-bas on prononce déjà Sama en arabe. Et vous avez d'ailleurs un mot analogue, c'est l'eau, maïm, en hébreu, et en arabe, vous avez le singulier, ma. Ce singulier en hébreu existe aussi, mais n'est pas usité pour dire l'eau. C'est le mot ma, memhe, dont le duel est maïm, alors le duel signifie l'eau. Si vous voulez, ça renvoie à cette notion des eaux originelles à la création. Mais ça signifie toutes les choses. Ma, c'est une chose. Ma, c'est quoi? Les maïm originels, c'est l'ensemble des ma. En fin de compte, nous avons parlé, je crois, une fois de ces choses-là. En fin de compte, ma est incarné dans le ma duquel nous provenons, nous les hommes, et qu'il s'agit de devenir mi, quelqu'un. Le ma s'incarne dans behema, bahma, en elle il y a ma, et ce ma doit devenir mi.